Alors, je vous propose l'enregistrement du texte La fille qu'on appelle de Tanguy Viel. Tanguy Viel, je commence par l'introduction et la présentation générale, est un écrivain français contemporain qui est l'auteur de plusieurs romans. Et souvent, le personnage principal de ses romans est un personnage qui est pris dans un engrenage social qu'il ne parvient pas à maîtriser. Un de ses romans les plus connus s'appelle par exemple Paris-Brest. Ces romans sont construits comme des romans policiers, avec des personnages d'escrocs, de victimes, avec des crimes. Il y a des procès. L'argent est souvent une thématique importante. L'auteur profite de ces histoires pour pratiquer une forme de critique sociale, hein, qui donne à réfléchir en fait sur les notions de pouvoir, de justice, de déclassement social. Alors, en ce qui concerne notre texte, La fille qu'on appelle, il s'agit de raconter l'histoire de Laura, qui est un jeune mannequin qui va se retrouver prise au piège parce qu'elle a fait une demande de logement social auprès du maire de la ville et que ce dernier va exercer une forme d'emprise sur elle en l'obligeant à lui accorder ses faveurs et en l'appelant en fait tous les soirs, d'où le titre La fille qu'on appelle Call Girl. Call Girl en anglais. Il s'agit d'une traduction littérale. Mais l'extrait que nous présentons n'est pas centré sur l'histoire de Laura, mais sur le destin de son père qui s'appelle Max Lecor, qui est un ancien boxeur déchu, qui est devenu le chauffeur du maire de la ville, et c'est à cause de lui en fait que Laura fait connaissance du maire. Le récit, l'extrait qu'on étudie, se situe au chapitre 6 du roman. L'histoire se passe dans une petite ville bretonne qui n'est jamais citée, mais la description est assez réaliste. En projet lecture, on pourra donc proposer la piste suivante. Comment le narrateur met-il en évidence la notion de prédestination dans le destin de Max? En effet, on comprend à la lecture de cet extrait que Max, qui est encore à l'époque où il est un boxeur reconnu, va connaître une déchéance sociale. Les parties du texte sont les suivantes. On a d'abord une première partie qui va être consacrée à la description du monde dans lequel évolue Max, de la ligne 1 jusqu'à la ligne 12. Ensuite, de la ligne 13 jusqu'à la ligne 19, on va avoir une analyse des lois qui régissent ce monde. Et puis enfin, de la ligne 20 jusqu'à la ligne 25, on a un portrait indirect de celle qui va causer la chute de Max, qui est une femme qui s'appelle Hélène. Alors, je commence par l'analyse de la première partie. Le texte s'ouvre par une longue phrase de la ligne 1 à la ligne 3 qui est basée en fait sur une accumulation de propositions, soit des propositions qui sont reliées par une conjonction de coordination, comme « mais » qui va montrer l'opposition à la ligne 2, soit avec des propositions relatives qui s'ouvraient à la ligne 2-3, ou bien par des juxtapositions, c'est-à-dire par la ponctuation avec les deux points d'explication à la ligne 3. Cette première ligne a vraiment une fonction d'ouverture. Il s'agit de faire rentrer le lecteur dans le monde dans lequel évolue Max. Et ce monde est un monde qui est un monde nocturne, c'est le monde de la nuit où va se jouer le destin de Max. On le voit avec point final de la soirée, monde sans fin de la nuit. Ce monde, aux lignes 2-3, ce monde est caractérisé par une exagération des perceptions sensorielles et en particulier ce monde. Est caractérisé par une musique qui est assourdissante, je cite l'adjectif à la ligne 1, la musique qui est évoquée en fait évoque une musique de fanfare avec des cuivres et des percussions, pour montrer en fait qu'on va assister à une sorte de spectacle. Hein. C'est un petit peu comme s'il y avait un rideau qui s'ouvrait et qu'on rentrait dans un autre univers, dans une autre dimension, mais un univers un peu factice, un univers duquel Max devrait se méfier. Et on peut remarquer que ce bruit est retranscrit pour le lecteur avec une série d'assonances en S. Par exemple, à la ligne 1, conscient, cette musique assourdissante, puis à la ligne 2, percussion, soirée, qui en fait montre ce glissement dans cet autre monde. Il y a s'ouvrait aussi et sans à la ligne 3. Le mot générique à la ligne 2 est vite permet de renchérir en fait sur cette idée de spectacle, puisque on peut penser au générique d'un film dans lequel les personnages qui vont être évoqués jouent un rôle. Ensuite, dans la ligne suivante, on voit que la tournure qui est employée et Max d'être accueilli comme un enfant prodigue par toutes les huiles de la ville est une tournure familière qu'on emploie en fait à l'oral et qui montre que le narrateur est investi dans l'histoire, qu'il va nous proposer en fait ses propres commentaires. On devine sa présence par l'emploi du mot familier et péjoratif « huile de la ville », qui va désigner les personnalités, mais c'est un mot qui relève de l'argot et qui porte déjà un jugement sur les personnages qui vont entourer Max. Ensuite, on va avoir la description de l'univers dans lequel va évoluer Max, jusqu'à la ligne 7, et on constate en fait que cet univers est ancré dans une description qui est réaliste, mais qui ne permet pas d'avoir des références précises. En effet, on va avoir l'utilisation du pluriel des parcs, des villas, des piscines, des soirées. Qui sont un peu des lieux clichés de lieux de la fête, qui vont connoter la richesse et le luxe. Et l'usage du pluriel montre que Max, en fait, est pris dans un engrenage avec une forme de répétition, puisque le pluriel montre que Max assiste à de nombreuses reprises ces soirées. On voit aussi que Max, en fait, n'est pas maître de ses soirées, puisqu'on a la tournure passive à la ligne 3 d'être accueilli, et que en fait, il est toujours en position de COD, hein, condamné en son honneur, en le déposant là, à la ligne 5. Il n'est jamais en fait en capacité d'être le maître de l'action. Hein, il subit cette action. On peut remarquer aussi une opposition entre la longueur de ces soirées et le côté soudain à la ligne 4, quand tout soudain s'ouvrait de la facilité avec laquelle Max peut jouer un rôle dans ces soirées. Alors le rôle qui lui est dévolu est marqué à partir de la ligne 6 par la métaphore du roi, hein, tout en haut de son trône, qui va le caractériser. Et il s'agit d'expliquer à la ligne 6 la phrase « sans qu'ils sentent à quel point ils préféraient tous leur place à la sienne ». Cette phrase, en fait, montre l'aveuglement de Max, qui ne possède pas les codes qui ne possède pas le code de ce monde dans lequel il est parvenu et qui ne parvient pas en fait à comprendre qu'il occupe une position dangereuse, même si elle est glorieuse. La phrase Ébélec le premier, qui se situe à la ligne 6-7, est une phrase nominale sans verbe, très rapide, qui montre que Max est le dupe en fait de tous les personnages qui l'entourent, y compris de Ébélec, qui est son entraîneur, et qui ne joue pas son rôle en ne le mettant pas en garde. À la ligne 7 toujours, on a une explication qui est que les autres personnages, par atavisme, c'est-à-dire par expérience, par expérience familiale ou bien par expérience personnelle, savent que ce rôle en fait qui est dévolu à Max, le rôle de clown ou de bouffon, si on peut employer ce mot-là, est vraiment dangereux. Et à nouveau, on va avoir à la ligne 8 une métaphore qui va montrer que cette position est fragile, sur de si fragiles pilotis déjà rongés par les termites. Ensuite, on a à nouveau une insistance sur l'opposition qui existe entre Max et les autres, eux tous au pluriel, ils au pluriel également, et lui qui se trouve toujours en position de COD, qui lui servait de trône. Il est vraiment pris au piège, et il est pris au piège en fait d'une ambiance festive. On le voit avec l'image qui est employée à la ligne 10, le champagne coulé dans leur verre depuis le haut de la pyramide. On peut remarquer ce champ lexical de la hauteur avec plateforme, trône, haut de la pyramide, qui va bien sûr contraster avec la chute qui est dévolue à Max. On peut remarquer également, toujours dans ces lignes 9-10, qu'il y a une temporalité qui est répétitive avec l'emploi des participes présents, laissant le champagne couler ou applaudissant, qui montre à la fois la durée et la répétition de ces soirées. Et enfin, le paragraphe se termine par une reprise de la métaphore, qui est donc une métaphore filée qui est récurrente dans le texte, avec homme couronné, qui va être prolongée, donc la figure de Max en tant que roi, qui va être prolongée par une nouvelle image qui va être développée dans le paragraphe suivant, l'image du gouverneur d'une île imaginaire. Cette île, bien sûr, va suggérer l'idée d'isolement, de solitude dans laquelle Max va se trouver. On a donc en bilan vraiment un décor festif, mais dans lequel l'auteur montre bien qu'il ne s'agit qu'un monde festif qui ne repose que sur des apparences. Et en tant que lecteur, on est vraiment prévenu de la place dangereuse qu'occupe Max dans cet univers. Alors, on a donc une forme de satire sociale qui n'est pas dite explicitement, mais qui est à décoder par le lecteur parce que on est conscient de la cruauté de la société dans laquelle évolue Max. Et donc il y a une complicité qui se crée avec le lecteur. Le narrateur est vraiment un narrateur omniscient, qui connaît le destin de Max, que lui ne connaît pas, et ça va créer une forme de connivence, d'entente avec le lecteur. C'est sur ce procédé essentiellement que va reposer le texte. Alors, si je prends ce second paragraphe, donc à partir de la ligne 13, il reprend ce paragraphe, la thématique de l'île, en précisant les lois de cette île. Cette île-là, on a une insistance sur le présentatif, et l'auteur va développer l'idée que Max n'est pas capable de lire les codes ou les lois qui existent dans cet univers. On a vraiment une métaphore filée du destin écrit à l'avance, et c'est pour cela que dans ce texte, on va avoir, dans ce paragraphe, pardon, on va avoir de nombreux mots qui vont faire référence à l'écriture de façon générale, ou bien, alors soit avec, à la ligne 1, les lois écrites à l'encre invisible, à la ligne 2, on a une référence au conte, au vieux parchemin, à la ligne 15, on a le verbe déchiffrer, à la ligne 17, on va avoir la mention « L'une est pourtant écrite en caractère plus gras ». À la ligne 18, on a la mention du grand livre de la nuit. Donc en fait, tout ce réseau, tous ces champs lexicaux de l'écriture se renforcent les uns les autres et vont vraiment renforcer cette idée de destin tracé à l'avance. On voit que le narrateur fait preuve d'une certaine forme d'ironie avec l'emploi des adjectifs. Par exemple, je reviens un petit peu en arrière après avoir montré ce réseau de champs lexicaux. Par exemple, à la ligne 13, étrange loi, et avec une tournure un peu familière du genre qui, hein, qui montre en fait une forme d'ironie par rapport à l'univers dans lequel évolue Max. On retrouve à la ligne 15 le fait que Max n'est pas en capacité de comprendre ses lois, en tout cas pas lui, hein, c'est une tournure restrictive. Et le narrateur explique pourquoi Max ne parvient pas à déchiffrer ses codes. C'est parce que il est grisé en fait par sa gloire, par ses images, surface glacée du papier où il apparaissait quelquefois dans les magazines, photographié par surprise, qui montre en fait qu'il est vraiment dans l'apparence, qu'il s'en contente et que donc il ne va pas être capable d'accéder à autre chose qu'un monde d'images, d'imaginaire, hein, dans lequel il est pris au piège. Et on a donc vraiment tout un champ lexical également de l'apparence avec entre encre invisible, transparence, surface. Max est dans le cliché au sens propre, hein, le cliché photographique, mais aussi il est prisonnier de ce monde superficiel. La fin du paragraphe, à partir de la ligne 17, lance une explication quant à la chute de Max. En effet, ce dernier est pris dans un univers dans lequel il existe des lois, et cette loi, eh bien, veut qu'un roi ait une reine. Elle est formulée à la ligne 19, qu'à tout roi, il faut une reine. Et donc, le texte nous explique que Max va suivre cette logique connue, inévitable. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de connecteurs logiques dans ce fin de paragraphe. Or, à cette loi, d'ailleurs, ensuite on a les deux points explicatifs et on a la conjonction de coordination et qui finit le raisonnement logique qui est à l'œuvre dans cette fin de paragraphe. Ces dernières lignes, ligne 19-20, vont servir de transition pour amener le portrait de cette reine. Et on retrouve à la ligne 19 l'ironie du narrateur, enfin de l'auteur du livre, puisque cette reine s'appelle Hélène. Et si l'on fait référence à Hélène, qui est un personnage de l'Antiquité pour lequel les hommes se battent à cause de sa très grande beauté et qui va être à l'origine du déclenchement de la guerre de Troie, eh bien, on va comprendre que le narrateur joue avec les codes, hein, en jouant de connivence également avec le lecteur. Il s'agit de la sœur de Franck, donc la sœur de l'entraîneur de Max, ce qui constitue une ironie supplémentaire. Si l'on fait le bilan de cette deuxième partie, on va remarquer en fait que le que le narrateur joue vraiment avec l'idée d'écriture, avec l'idée de destin tracé à l'avance, et qu'il utilise de nombreuses métaphores filées hein, qui se superposent les unes aux autres dans le texte. Enfin, si l'on passe à la troisième partie de la ligne 20 à la troisième 20, à la ligne 25, pardon, on va avoir une anticipation, puisqu'on va avoir connaissance du destin de Max, avec à la ligne 20 le verbe chuter, hein, qui s'oppose avec toute l'idée de trône qu'on avait dans le premier paragraphe. Et en fait, on va avoir une référence à la rumeur qui entoure ce genre d'histoire, avec l'emploi répétitif en anaphore de à la ligne 20, on dit que c'est à cause d'elle, on dit qu'elle en avait fait chuter d'autres, pardon, on dit qu'elle était la plus fatale. Ce on dit en fait va désigner tous ces personnages qui demeurent toujours anonymes, hein, qui entourent Max, qui l'entourent de malveillance, mais qui ne se positionnent jamais. Et on voit qu'il y a une parole en fait sous-jacente qui est importante dans le texte. Donc le on dit et le on, le pronom indéfini de la rumeur. Cette femme, donc, qui est désignée de façon répétitive par elle, 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 dans les lignes 19 à 20, est comparée à une tornade à la ligne 21, avec dévasté tout sur son passage. On va toujours à la ligne 20 avoir une dénomination assez péjorative vis-à-vis d'Hélène, puisqu'elle est qualifiée par le superlatif, elle était la plus fatale de toutes les putes de la côte bretonne, le mot pute étant vraiment évidemment péjoratif, et est une forme de provocation de l'auteur dans le texte pour montrer à quel point en fait Max est aveugle. On peut penser d'ailleurs avec ce superlatif au superlatif qu'il y a dans la princesse de Clèves qui eux sont toujours extrêmement valorisants. Enfin, arrive la dernière thématique importante dans le texte qui est celle de l'argent qu'on va avoir à la ligne 22, donc où se trouvait l'argent. Mais le narrateur apporte une précision puisqu'en fait il montre avec une nouvelle métaphore à la ligne 23-24 qui caractérise Hélène comme un détecteur de métaux. Il apporte une précision d'importance puisqu'Hélène en fait n'est pas attirée par l'argent mais par ceux qui sont susceptibles de perdre ou d'abandonner cet argent. À la ligne 23, la faille de qui l'avait. Donc avec cette idée de faille, le narrateur appuie sur les faiblesses, les défauts, les défaillances en fait qui peuvent affecter Max. Le texte termine par une nouvelle métaphore filée avec une comparaison, comme si tout son cœur n'avait été qu'un détecteur de métaux capable d'aimanter à la fortune d'un homme. En conclusion, on voit bien que ce texte est un texte qui présente le destin d'un personnage, mais sur un mode dégradé. On n'est pas dans la tragédie classique, contrairement à la princesse de Clèves. On n'est pas dans une tonalité tragique, parce que Max, en fait, évolue dans un univers perverti qui ne parvient pas en fait à atteindre à une certaine grandeur qui serait celle de la tragédie. Et le lecteur est vraiment mis à distance par l'ironie qu'exerce le narrateur sur son personnage. On ne peut pas en fait éprouver d'empathie pour Max. En revanche, on peut remarquer qu'il y a une critique sociale qui est forte dans le texte, puisqu'on comprend bien que Max occupe la fonction de bouc émissaire, hein, que c'est un personnage qui est extrêmement naïf, et donc ce qui est dénoncé, c'est une société qui fonctionne en fait avec des boucs émissaires. Et globalement, on va avoir l'idée, l'image d'une société corrompue avec des règles qui sont dévoyées parce qu'ils appartiennent à ceux qui sont riches et puissants. Et donc, en ouverture, on peut proposer un rapprochement avec la princesse de Clèves qui, elle, parvient à se préserver de la société dans laquelle elle évolue, mais qui est aussi victime, d'une certaine façon, du jeu des apparences et d'une société qui est, elle aussi, corrompue.